à fleur de peau.
Histoire de la batterie, chapitre 3.
Map, map, baf, baf, clouk, ma bri, babi, bap, ouhouhou, ouhouhou, liakou, kubanabi, kubanabop, kubanabi, kubanabop, kubanabi, kubanabop, kubanabi, kubanabop, kubanabi. Se mettre en quatre afin de jouer d'une demi-douzaine d'instruments comme un seul homme, on conçoit que cela pose quelques problèmes, mais qui se réduisent à deux. Deux difficultés colossales dont toute la difficulté est de soumettre le musicien à des exigences contradictoires. D'un côté, la coordination, de l'autre, l'indépendance. De Baby Dodds à Joe Jones, tous les progrès ou presque se sont faits dans le sens de la coordination. L'idéal de cohésion et de cohérence défini par Jones, c'est un continuum musical, une respiration régulière, une circulation d'air qui permet aux autres instruments de chanter. La batterie, dira-t-il, ne doit pas être perçue, mais sentie. Un exemple, Shoe Shine Boy, John Smith Incorporated, c'était avec Lester Young en 1936. À partir de Sidney Catlett, contemporain de Jones, il est même son aîné d'un an, c'est sur l'indépendance qu'on va mettre l'accent, d'abord en libérant le pied droit qui se contentait pour l'essentiel de marquer les quatre temps à la grosse caisse. En libérant le pied droit, mais en libérant aussi la main gauche, laquelle soulignait, dans les parties les plus conventionnelles, les temps faibles, 2 et 4, de la mesure à 4 temps. Relançait aussi cette main gauche la pulsation par des syncopes généralement placées avant les deuxième et quatrième temps de la mesure à 4-4. Même perspective, un peu plus tard, Art Blakey, précurseur en cela de Philly Joe Jones et des modernes, confiera ici ou là, au pied gauche ou au pied droit, certaines figures familières de main gauche libérée. Sidney Catlett, Big Sid, le bon géant, celui qui joue à la fois avec Louis Armstrong et avec Charlie Parker, n'a rien fait de moins que de défricher une piste difficile, la voie de la polyrythmie, que Kenny Clarke transformera en boulevard, sinon en autoroute, étape par étape, entre 1940 et 1945. Bebop orthodoxe, la continuité rythmique est assurée par la main droite sur la grande cymbale en un strict cha-bada chez Max Roach et Art Blakey. Avec de subtiles variations chez Kenny Clarke, précisément. Ou de manière plus inventive encore, dès la fin de la décennie, chez un Tiny Can, partenaire notamment de Chubby Jackson en big band ou de Stan Getz en petite formation. Thank you. sais bien, et vous savez aussi, que le jazz enregistré, ce n'est pas tout le jazz. Il n'empêche que, depuis que nous pensons à cette émission et que nous la préparons, ça fait bien 2 ou 3 mois maintenant, nous avons essayé de trouver un disque dans lequel un batteur quelconque, nous pensions à Roy Haynes, nous pensions à quelques autres personnages, aurait pu jouer de manière plus aventureuse de la cymbale que Tiny Ken en ce soir d'octobre 1951 au Storyville de Boston avec Stan Getz, et nous n'en avons pas trouvé. En ce qui concerne le jazz des disques, eh bien c'est la première fois que quelqu'un jouait autre chose qu'un shabada ou un shabada avec quelques syncopes assez traditionnelles sur une cymbale.
Il faut dire que là où nous en sommes actuellement dans l'histoire, les 4 membres sont sollicités. Il y a donc le tempo sur la cymbale, la grosse caisse marquée très légèrement pour Kenny, très piano, donc tous les temps, très très légèrement, de temps en temps syncopé comme nous l'avons vu, la caisse claire qui joue aussi un autre rythme, et la Charleston qui a sa place. Donc les 4 membres étant sollicités, il est intéressant, je pense que les auditeurs seront intéressés de savoir qu'à chaque membre correspond une voix particulière. Je vais installer un tempo à la grosse caisse. Je suis au pied droit. Maintenant je place la Charles au deuxième 4, 2 et 4, c'est-à-dire au pied gauche, je place la main droite sur la cymbale. Je place maintenant la main gauche. Et maintenant, je vais chanter chaque membre. Boum, 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 pour la grosse caisse. Maintenant, je vais chanter la main gauche, c'est-à-dire la partie de caisse claire. Maintenant, je vais chanter la partie de Charleston, c'est-à-dire la partie de pied gauche. Tic, 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 tic. Maintenant, je vais chanter la partie de cymbale, c'est-à-dire la main droite. Tic, 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 tic. Quand on a commencé tout ce travail de coordination, on apprend à jouer de véritables, ce que nous verrons tout à l'heure, de véritables mélodies en variant tantôt la main droite, tantôt la main gauche. Et le batteur a une audition particulière d'un côté, en écoutant les 3 autres membres, une autre écoute en écoutant un membre en jouant 3 autres, puis en jouant encore un autre en écoutant les 3 autres, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons une autre écoute. L'indépendance, c'est d'arriver à jouer, par exemple, des triolets comme je viens de le faire, des noirs, des blanches, des triolets, mais en coordination avec des sonorités différentes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a une sorte de... Le batteur est en fait un homme orchestre. C'est-à-dire que la cymbale, c'est le tempo, la grosse caisse, c'est la contrebasse, la caisse claire, c'est les ponctuations d'un pianiste, et la Charleston, c'est la discrétion qui arrive à l'absence.
Alors avec Tiny Ken, nous avons affaire à un personnage qui véritablement interprète sur sa grande cymbale des mélodies, quelque chose qui ressemble à une mélodie en contrepoint de ce que fait le soliste. On aura remarqué d'ailleurs qu'il est relativement sage lorsque c'est le pianiste qui s'exprime, oui. Mais derrière Stan Getz, en revanche, il y a des variations en nombre indéfini.
Maintenant, on arrive à jouer tout à fait autre chose qui rentre dans une sorte de polyrythmie que nous verrons au fur et à mesure du temps.
Base du style bop, puisqu'il reste lui-même, un demi-siècle plus tard, le fondement de la batterie actuelle, tout s'en faut. La cymbale à coulisses, sauf exception, salue au passage, suggère ou martèle, chez Art Blakey par exemple, les temps faibles. La grosse caisse, contrairement à ce qu'on a dit et répété, écrit en toutes les langues, ne cesse pas, elle, de souligner chaque temps, mais alors qu'elle le faisait avec force sous la semelle de Gene Krupa, qui devait tenir le rôle du contrebassiste absent au sein du quartet de Benny Goodman, elle devient avec Kenny Clarke d'une discrétion infinie. Il s'agit seulement de communiquer des vibrations au plancher sur lequel l'instrument est posé, de manière que les solistes qui s'y tiennent, debout ou assis, les reçoivent au creux de l'estomac. « Toutefois, sur les temps, mais de plus en plus souvent entre les temps, le pied droit peut aussi distribuer des accents, simples nuances ou véritables explosions, ce qui leur vaudra l'appellation de bombe. Joe Jones et Gene Krupa lâchaient des bombes. Sidney Catlett, dont nous avons parlé tout à l'heure, s'affirme comme l'artiste, le poète de cette technique particulière, que Kenny Clarke mènera à son plus haut degré de perfection, au point que lorsqu'il vint en Europe, petite anecdote, pour la première fois avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie, c'était en 1948, une armée de batteurs se bousculeront dans la coulisse, espérant tous qu'une chose, apercevoir en pleine action le pied droit du maître. Célèbre l'histoire du jazz, c'était à la veille de Noël en 1954 et dans ce studio pour prestige étaient réunis autour de Miles Davis que chacun aura reconnu, Milt Jackson dans une forme éblouissante, Thelonious Monk, Percy à la contrebasse et puis Kenny Clarke.
Il faut dire que nous en sommes maintenant à un problème que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent. Un batteur ne peut exister maintenant sans contrebassiste. Et c'est un élément vraiment fondamentalement nouveau. Nous avons eu Joe Jones avec Walter Page. Et bien là, nous entendons Kenny Clarke avec Perseus, qui fera une équipe Perseus, qui fera équipe avec Connie Kay au sein du Managers Quartet pendant presque 40 ans, ou peut-être même plus. Et puis il y a les duos, les tandems, Scott LaFaro, Paul Motion, Jimmy Garrison, Elvin Jones, Ron Carter, Tony Williams, Gary Peacock, Jack DeJohnette. Alors quelqu'un qui ne connaît pas la batterie dit, on fait tchini tchiki ding, tchiki ding, tchiki ding, et ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à chaque note, une note différente de contrebasse. Autrement dire, le batteur fait tchini tchiki ding, et on entend padon, don, don, pédon, ton, don. Et alors chaque fois, ça correspond donc à une mélodie particulière. C'est-à-dire que le batteur répète quelque chose qui n'est en fait jamais la même chose. Et c'est une chose qui est tout à fait fondamentale, c'est qu'il faut que le batteur apprenne le piano, c'est-à-dire apprenne à entendre verticalement la musique. Ce qui est un problème complètement, j'allais presque dire nouveau, dans la mesure où il, faisant équipe avec un contrebassiste, il forme ce qu'on appelle une rythmique, mais qui évoluera d'une façon considérable dans l'histoire du jazz, mais il faut qu'il apprenne en même temps à entendre vraiment la tranche de cake. Et il faut que le batteur respecte, entende et comprenne les structures harmoniques qui succèdent. Alors il ne s'agit pas du tout donc de jouer tchikiding, tchikiding, tchikiding. Il s'agit de comprendre qu'à cet endroit-là, on sent qu'on passe de tel accord, que là, la structure est de 16 mesures, là, c'est une structure de 32 mesures, etc.
On admire généralement dans le public les batteurs pour leur flamboyance. Or, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'aspect flamboyant de la batterie n'est finalement que son aspect subsidiaire.
Tout à fait.
Et ce qu'on vient d'entendre là avec Kenny Clarke illustre admirablement un mot de Jean Paulhan, qui n'était pas un spécialiste de batterie, mais qui a dit un jour, c'est le langage qui a besoin d'être simple et la pensée un peu compliquée. Et bien avec Kenny Clarke, on assiste à l'extrême complexité d'une pensée en rapport avec une continuité harmonique, avec beaucoup d'événements qui se passent devant lui, mais le langage lui est d'une simplicité biblique.
Faire uniquement c'est très difficile parce qu'il faut travailler le son. On travaille le son, on travaille le mouvement, le geste, tout ça, mais il y a le travail du son. Et c'est cette matière, cet ensemble qui fait qu'en fait c'est d'une très très grande complexité. Ça demande une attention soutenue de chaque instant et un contrôle du son de chaque instant grâce à toute une série d'exercices de frappe, etc.
Alors on va poursuivre notre petite investigation combinée au commentaire de la main gauche sur la caisse claire. Les ponctuations de grosses caisses dessinent une ligne mélodique en parallèle avec l'improvisation du soliste, en contrepoint ou au contraire en opposition déclarée, c'est ce que nous venons de dire. Ainsi, la polyrythmie qui règne à l'intérieur du jeu de batterie règle-t-elle les relations entre le batteur et ses partenaires?
Very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Bryant. Let's give him a hand.
Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do. Thank you.
Avec Kenny Clarke, la batterie de jazz avait découvert la concision du verbe. Avec Max Roach, que nous écoutions en compagnie de Clifford Brandt, bien sûr, dans la version de concert de Giordio. Avec Max Roach, donc, la batterie de jazz va découvrir l'insondable richesse, la formidable musicalité du silence.
L'art du silence est une des caractéristiques maintenant du jeu du batteur aussi. Il y a des batteurs qui ont fait une carrière là-dedans, c'est-à-dire qui ont utilisé la batterie comme un élément de mystère. Et en même temps que Max développe des mélodies sur les tomes, parce qu'il s'agit vraiment des mélodies, il fait chanter la batterie d'une manière complètement différente des autres musiciens, dans la mesure où il se rattache quand même à la tradition classique de Sidney Catlett, d'autres batteurs, bien entendu, mais en même temps, il y a un apport complètement nouveau parce qu'il fait chanter les tomes d'une certaine manière.
Tambour qui chante, je reprends votre expression, l'idée n'était pas nouvelle. Hors du jazz, dans la tradition afro-cubaine, les trompettes scandent des figures percussives, tandis que les percussions suggèrent des mélodies. Comment s'étonner que très vite, le bebop ait rencontré certaines des musiques latines et qu'ait été célébré en cette occasion l'un des rares mariages, incontestablement fécond, entre la jazzosphère et l'ailleurs, Cubanabi, Cubanabop, souvenez-vous.
Univers qui apparaît maintenant, que nous n'avons pas vu, qui est peut-être un peu un écho de ce qui se passait au Cotton Club à la fin des années 20. Avec Kenny, sont arrivés des tempos extraordinairement rapides et qu'à ce moment-là, il était hors de question d'ailleurs de danser pour d'autres raisons également, mais c'était des expériences. Et l'Afro-Cubain est un peu un retour en même temps à quelque chose qui est une joie de vivre, de vraiment de la danse. Et Art Blakey est peut-être le roi de ces Afro-Cubains qui n'ont, avec ses roulements sacs de charbon, avec toute cette panoplie extraordinairement puissante qui en fait un homme absolument unique, un homme qui a d'ailleurs beaucoup souffert dans sa vie de choses très différentes et qui a toujours été un homme qui a aidé les autres.
Ellington, l'Amérique latine, tout se retrouve dans Caravane, par Art Blakey précisément. La caravane passe, et les chiens en oublient d'aboyer, les messagers du jazz furent nos rois mages et la bonne étoile qui les guidait était celle qui fit d'Art Blackie, le petit ouvrier des aciéries de Pittsburgh, l'un des tambours majeurs de ce siècle. Fin du chapitre 3, illustré par Georges Pagzinski, rédigé par votre serviteur, imprimé sur bande magnétique et colorisé par Gilles Pézra, équilibré, monté, formaté par Marie-Cécile Mazzoni. Demain, nos héros connaîtront d'autres aventures sur les traces de Roy Haynes, Shelley Mann, Philly Joe Jones et Elvin Jones. Pour ne citer que cela, bonsoir à tous.
C'est le rythme et la raison, la batterie à fleur de peau par Alain Gerber.